secrétaire. Et donc, elle prend en note toutes vos propositions. Et ensuite, une fois que nous avons, un certain nombre de propositions, lorsque vous n'en avez plus à proposer, nous passons au vote, à main levée. Et là, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous le désirez. Voilà. Et la proposition qui aura récolté le plus grand nombre de voix sera la proposition débattue ce soir au Café Philo. Si jamais il y a des ex-échos, on recommence les votes. Et là, par contre, on ne peut plus voter qu'une seule fois pour départager les sujets. Voilà. Marie-France.
Oui, moi, ce que je voulais vous préciser, c'est que généralement, au Café Philo, il y a beaucoup de prises de parole. Ça se bouscule un petit peu. Et on essaye de recenser toutes les demandes.
Ah, des fois, il y a quelques petits problèmes de micro.
Oui, il fait grève.
Il fait grève, oui.
Voilà. Donc, pour essayer de faire en sorte qu'un maximum d'entre vous puisse s'exprimer, nous privilégions toujours les personnes qui demandent la parole pour la première fois. Donc si vous redemandez la parole, soyez patients. S'il y a des gens qui ne se sont pas encore exprimés, ils passeront avant vous. Mais si le temps nous y autorise, on repassera le micro, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste préciser cette petite règle de fonctionnement parce que souvent ça se bouscule.
Et une fois que le Café Philo sera terminé, donc aux alentours de 20h30, 20h35, je vous rappelle qu'il y a un pot de l'amitié. Donc voilà, nous vous inviterons à passer au bar pour partager quelques amuse-gueules, des boissons non alcoolisées ou alcoolisées à hauteur de 2 euros. Voilà, alors, alcoolisé, c'est vin blanc, kir et un verre de vin rouge, je crois. Voilà, c'est clair pour tout le monde ? Eh bien, alors, c'est parti. Quel sujet aimeriez-vous voir traité, donc, ce soir ? Est-ce que vous avez quelques propositions à faire ? Oui, faut se lancer. Alors, on va vous passer les micros. Juste un point aussi, peut-être important. Vous savez que si vous n'êtes pas là et si vous désirez réécouter les Cafés Philo, ceux-ci sont enregistrés. D'accord ? Et donc, il vous suffit d'écrire à Philomania et on vous enverra le podcast du Café Philo. C'est la raison pour laquelle on fait passer un micro, en fait. Voilà. Donc, voilà, pour madame, voudrait proposer quelque chose. Donc, on peut avoir le micro. Là, ici, madame.
Bonsoir. Voilà, le sujet que je proposais, c'est un sujet autour de la solitude dans notre société, solitude subie. Solitude voulue, solitude acceptée.
Comment vivre la solitude ? On pourrait le formuler comme ça.
Oui.
Donc, comment vivre la solitude ? Ouais. Ensuite, oui.
Alors moi, je voudrais poser une question que je me pose. Je pense que beaucoup de gens se posent aussi. Est-ce que la liberté est essentielle au bonheur ?
Est-ce que la liberté est essentielle au bonheur ? Oui, madame ?
Est-ce que l'homme a nécessairement besoin de religion ?
Est-ce que l'homme a nécessairement besoin de religion ? Oui.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'interroge, j'aimerais que nous interrogions sur la notion, ou plutôt le concept de valeur avec un S, par rapport, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, quelles sont les valeurs collectives, individuelles ? Y a-t-il une place encore ? Voilà, c'est le concept de valeur et quel est le regard des philosophes sur la notion, le concept plutôt de valeur.
Mm-hmm. Y a-t-il, existe-t-il encore des valeurs au XXIe siècle ? Voilà, ça irait comme question ça ?
Oui.
Ouais. Mm-hmm. Existe-t-il encore des valeurs au XXIe siècle ? Mm-hmm. Oui.
Comment passe-t-on de la réalité des différences au concept du racisme ?
Mmh. Donc, comment passe-t-on de la différence au racisme ? Mmh. Oui ?
Entreprendre et réaliser tout ce qui est possible et réalisable, est-ce toujours une source de progrès ?
Entreprendre et réaliser tout ce qui est réalisable, est-ce une source de progrès ? Mmh.
La vie a-t-elle un sens ?
La vie a-t-elle un sens ? Peut-on affronter la notion de néant ? Peut-on affronter la notion de néant ? Mmh. Ce qui nous fait 8 sujets. Donc, voilà. Ben, je vous propose de passer au vote. Alors, Marie-France, premier sujet. Oui.
Alors, premier sujet, comment vivre la solitude ?
Comment vivre la solitude ? Donc, voilà. Je vous rappelle, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous le désirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
30. Deuxième sujet, est-ce que la liberté est essentielle au bonheur ?
La liberté est-elle essentielle au bonheur ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Troisième sujet, est-ce que l'homme a nécessairement besoin de religion ?
Est-ce que l'homme a nécessairement besoin de religion ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Alors, existe-t-il encore des valeurs au XXIe siècle ?
Existe-t-il encore des valeurs au XXIe siècle ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16.
Cinquième sujet, comment passe-t-on de la réalité des différences au racisme ?
Comment passe-t-on de la différence au racisme ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Sixième sujet, entreprendre et réaliser tout ce qui est réalisable, est-ce une source de progrès ?
5, 6, 7, 8. 8.
Septième sujet, la vie a-t-elle un sens?
La vie a-t-elle un sens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Enfin, huitième sujet, peut-on affronter la notion de néant?
Peut-on affronter la notion de néant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Donc, le gagnant est
le sujet numéro 5. Comment passe-t-on de la réalité des différences au racisme?
Comment passe-t-on de la réalité des différences au racisme? Qui l'avait proposé? Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner la raison d'une telle question?
C'est une question que je me pose depuis assez longtemps. Je regarde autour de moi, je vois des personnes différentes, des gens différents, des couleurs différentes. Et je vois que à certains moments il y a des idées qui rapprochent et des notions de racisme qui prennent un corps. Et je me pose la question pourquoi? Comment on en arrive là? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de simplement de penser? Est-ce qu'on a des gènes en nous qui font qu'on n'accepte pas la différence des autres? C'est vrai, ça va.
Alors, là, on pourrait dire que dans la notion de différence, il y a un constat qui se fait, quelque chose d'assez objectif. Si je regarde autour de moi, ben, je m'aperçois bien que les autres ne sont pas moi, et c'est la même chose pour les autres. Donc, en fait, on serait tous différents. Alors que dans l'idée de racisme, il y aurait l'idée d'exclusion, il y aurait l'idée de poser certaines races comme supérieures à d'autres races, avec ce qui générerait donc de la violence. Donc comment passe-t-on d'un fait objectif, en fait, et j'ai envie de dire statique, à cette logique de l'exclusion, voire de la haine de l'autre? Ça serait ça, en fait, la question. Donc, qu'est-ce qui nous fait haïr notre semblable? Enfin, c'est peut-être ça, justement, la question. Est-ce que l'autre est aussi semblable que ça à moi? Dans le racisme, c'est pas sûr du tout que l'autre soit justement mon semblable. Là. Qu'est-ce que ça éveille en vous, cette idée de différence et de rejet?
On peut essayer de définir déjà le terme de race, hein, peut-être, parce que ça s'applique vraiment à l'espèce humaine, puisque avec un génome.
À partir de ces génomes-là, est-ce que.
Je crois qu'il y a un micro qui rend l'âme.
Oui, donc c'est définir le terme de race, hein, par rapport à la science où on a un seul génome, et puis à partir de là. Peut-être aller voir un peu plus loin ce qui est différent de nous, simplement, quoi. Puisqu'on a juste la couleur, la religion. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui nous fait bondir, c'est les problèmes de religion qu'on peut avoir autour de nous. Et puis la notion après de peut-être aller un peu plus loin, les différences culturelles, la culture qui va avec.
Pour moi, c'est plus des pistes de ressenti par rapport à cette question. Pour moi, la méconnaissance ou l'incompréhension de l'autre, donc, quelle que soit la différence, hein. Et on pourrait d'ailleurs définir ce qu'est le racisme, et pas seulement la race, je pense, ça fait partie des facteurs. Donc la méconnaissance et l'incompréhension peuvent générer des réactions justement négatives et qui peuvent aller jusqu'à la haine.
Alors, je voulais juste intervenir dans le même sens que ce que madame vient d'exprimer, méconnaissance, bien sûr. Donc, manque d'ouverture d'esprit, probablement, manque de connaissance aussi de l'autre, des autres. Et puis, ça engendre après la peur. Et n'y a-t-il pas, je pose même pas la question, il y a probablement beaucoup de personnes qui profitent du système et qui mettent à profit la peur et la méconnaissance, l'ignorance, voilà, l'ignorance aussi, pour engendrer du racisme, pour engendrer la haine de l'autre. Mmh. La peur.
Je pense qu'en fait, il y a un souci aussi. Si on ne respecte pas les mœurs et les règles de certaines personnes ou de certaines personnes qui ont des croyances religieuses, bien à un moment, ces personnes finissent par nous haïr parce qu'on ne respecte pas la vision des choses qu'ils ont. Et surtout, les règles qu'ils veulent imposer déjà à certaines personnes. Mmh.
Donc la haine engendrerait la haine, en fait. Ça serait ça, l'idée ?
Non, l'idée, c'est qu'en fait, la différence, en fait, peut-être que... Bah, je ne sais pas, le racisme. Moi, je ne me sens pas raciste. Hein, quand je comprends les gens qui sont parfois traités de racistes, c'est qu'en fait... Oui, je pense qu'en fait, il y en a certains qui supportent pas, par exemple, si moi je me promène en bikini dans certains endroits ou dénudée, etc., ça va mal être pris parce que ça respecte pas leurs règles. Ne serait-ce que dans une mosquée, dans une église, peu importe les religions, il y a les religieux quand même ont des règles. Et à un moment, si on ne respecte pas leurs règles ou leurs mœurs, eh bien ça, c'est des choses qu'ils ne supportent pas. Et j'ai l'impression que ça entraîne très vite la haine, en fait. Mmh.
Mmh. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est que dans l'idée de racisme, il y aurait l'idée d'un groupe. C'est-à-dire, c'est ce qui va constituer l'identité d'un groupe. Voilà, donc un système de code, en fait. Qui va définir l'identité de ce groupe, et effectivement, tout ce qui ne correspondrait pas à cette identité ou à un type de comportement serait pour le coup exclu et rejeté.
Oui.
Mmh.
Oui, j'ai deux remarques. Là, déjà dans le débat, on voit bien quand même que racisme, ça s'apparente à la religion, alors que c'est pas forcément ça, le racisme, mais qu'il y a bien des amalgames qui sont faits entre les croyances et les groupes qui représentent ces croyances. Et donc, on est raciste en fonction d'un groupe qui a une certaine croyance. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble que individuellement, je ne suis pas forcément sûre qu'on soit raciste. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est porté par la société, par l'histoire, etc. Je donne un exemple un peu idiot, mais on voit tous, je pense, des gens qui vont voter pour le Front National, par exemple, avec des idées racistes sur le plan théorique, mais qui vont avoir des amis noirs, des enfants qui jouent avec leurs voisins, qui sont d'origine musulmane, etc., et ça leur pose aucun problème. Donc, je pense qu'il y a aussi une instrumentalisation du racisme, pour différentes raisons, hein, bonnes ou mauvaises, mais qui font que en groupe, il y a un phénomène de racisme, mais que peut-être l'individu à l'origine, s'il est bon, n'est peut-être pas si raciste que ça, et que donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, on est semblable quand même. Mais qu'après, c'est politique, religieux, économique. Pour les Juifs, par exemple, à une époque, c'était parce qu'ils étaient riches, soi-disant. Bon, ça cristallise le racisme, le rejet de l'autre, en fait, mais uniquement, je pense, en groupe.
Ouais, ça serait un effet de groupe, le racisme.
Bonsoir. Alors, je crois que l'on n'emploie plus le mot de race pour les êtres humains. Je pense que c'est un mot qui a été banni
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un terme qu'on n'utilise plus, le terme de race.
Je pense qu'on a presque plus le droit d'utiliser. Et je voulais juste ajouter que les 8 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre, dans les émotions fondamentales, hein, la peur, la colère, la joie, et aidez-moi sur la quatrième, et la tristesse. Tous, on éprouve ces quatre émotions fondamentales. Et de plus, nous en avons tous la même expression faciale. Et donc reconnaissable. Alors même si dans les pays d'Asie, ce sera sûrement un peu moins marqué qu'en Occident, enfin, voilà, en fonction des cultures, ce sera plus ou moins marqué. Mais n'importe qui d'entre nous peut reconnaître sur n'importe quel visage une de ces quatre émotions fondamentales exprimées. D'où la question du racisme.
Mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait peut-être pas tant de différence que ça, en fait.
Alors, sur les émotions, fondamentalement, il n'y a aucune différence. Et c'est démontré, hein, c'est scientifiquement démontré. Ça veut dire que lorsque l'on sourit, un Asiatique, un Africain, il sait que nous sourions. Il voit que nous sourions.
Et donc, dans l'expressivité, il y aurait quelque chose qui nous réunirait tous, au-delà des cultures.
Et comme dans la tristesse, c'est-à-dire que si un de nous est triste, quel que soit le pays d'origine d'un autre, il sait que nous sommes tristes. Il voit, il sait. Et il peut venir nous consoler. Puisque, du coup, il a... il perçoit notre émotion, voire avec les neurones miroirs, il peut sentir la même émotion.
C'est l'empathie.
C'est l'empathie.
Tout à fait, oui. D'où le racisme devient incompréhensible, en fait.
Incompréhensible.
Alors moi je voulais réagir à ce que la madame là-bas a dit. Je pense pas que le racisme soit quelque chose qui soit communautaire, on va dire, parce que faut se rappeler que les idéaux c'est personnel. On a chacun nos façons de penser, nos idées, tout ça. Alors certes c'est pas quelque chose qui est inné, c'est un apprentissage. Donc je suis d'accord sur le fait que quelqu'un qui est raciste, on va dire c'est l'apprentissage de son environnement qui a fait qu'il est comme ça. C'est des événements extérieurs, mais c'est aussi un choix. On a le choix de se tourner vers l'autre, d'apprendre à le connaître, de comprendre son point de vue, et on a le choix aussi de se dire, on se ferme complètement, on reste avec, son propre point de vue à nous, sans essayer de comprendre l'autre. Et c'est ça qui je pense, est aujourd'hui à l'origine de toutes les tensions qu'on trouve dans la société, qu'elles soient surtout politiques, globalement, tout ce qui est guerre de religion, c'est parce que c'est vraiment un refus de voir le point de vue de l'autre.
Un refus d'ouverture.
Ouais.
De ce côté-là,
oui, juste une observation facile à faire dans une cour d'école maternelle. La spontanéité des enfants montre l'absence totale de racisme chez le petit.
Je pense que le racisme n'est pas un fait de personne, de relations personnelles, interpersonnelles. Le racisme me semble un fait de groupe, surtout une argumentation historiquement qui met en avant les différences pour justifier que les dominants, du fait d'une certaine supériorité liée à des différences exprimées, tirent bénéfice de l'exploitation des dominés. Et je pense que, historiquement, c'est ce qui le fonde, et ensuite, à l'intérieur d'une collectivité, cette argumentation peut se développer, prendre des formes et autres.
Ouais. Donc, l'air de rien, le racisme serait quand même un fait politique. Voilà. Hein? D'accord.
Moi, c'est pour rebondir un peu, je crois bien dans la pensée du monsieur. Quand on retourne à l'état de nature, par exemple, quand on regarde les animaux, c'est vrai que les animaux, par leur différence, se tiennent en groupe par rapport à leur différence. Et c'est l'ignorance aussi qui nous entraîne vers cette vision un peu différente des autres. Quand on ne les connaît pas, on a tendance un peu à ne pas vouloir aller les voir. Alors, quelque part, je trouve que le racisme, c'est plutôt un faux problème, parce que c'est pas vraiment la race qui est là, c'est plus la différence, les gens, parce qu'ils sont différents, donc ils sont pas comme nous. Du coup, on les classe dans une certaine forme de race, en disant que bon, voilà, c'est... Voilà. Mais quand on apprend à connaître les gens, et au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, les gens se rendent compte que finalement, les gens qui paraissaient différents, bah, nous ressemblent, finalement. Et c'est la fin du racisme, quelque part. Donc pour moi, c'est plus question de différence qu'on essaie d'accentuer sans vouloir chercher à comprendre, ou sans la culture, évidemment. C'est qu'on bascule des fois dans des violences qui n'ont rien à voir vraiment avec la race. C'est juste l'ignorance, c'est le refus de l'autre, c'est tout. Voilà, c'est un peu ma manière de penser.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette logique dans le refus de l'autre, dans l'exclusion de l'autre, il y a quand même cette logique de haine. C'est-à-dire, par définition, l'autre, parce que je le pose comme différent... J'ai presque envie de dire le grand autre, hein, il génère en moi un sentiment de haine. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'état de nature, qui est un terme usité en philosophie, c'est l'idée de penser la nature de l'homme si celui-ci ne vivait pas en société. Et je pense que ça va nous intéresser. Et cette nature, cet état de nature, il est pensé chez un philosophe comme Hobbes, anglais du XVIIe, il est pensé comme naturellement violent. C'est-à-dire le rapport que j'ai à l'autre, c'est un rapport de violence. Comme il nous dit, l'homme est un loup pour l'homme. Mais pourquoi l'homme est un loup pour l'homme ? Parce qu'en fait, l'autre a très souvent ce que je désire. Il a ce que je voudrais avoir. Et donc... L'agressivité que je vais pouvoir développer à son égard va venir du fait que je veux prendre ce qu'il a. Et donc, on va avoir quand même une relation interindividuelle qui fait que, à la limite, si j'en viens à haïr l'autre, c'est pour ce qu'il m'a fait, c'est pour ce qu'il m'a pris. Enfin, ça demande quand même une certaine forme de connaissance de l'autre. L'autre devient mon ennemi. Or, dans le racisme, il y a quelque chose qui semble outrepasser cela. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de connaître l'autre. Je n'ai pas besoin même d'être en relation avec l'autre. Parce que l'autre est posé comme appartenant à une race autre que la mienne, à une communauté autre que la mienne, enfin un groupe autre que le mien, par définition, il est haïssable. Et c'est vrai que du coup, lorsque j'en viens à rencontrer l'autre dans sa singularité, celui que je devrais haïr, ben, au final, il n'est peut-être pas aussi monstrueux que ça, il n'est peut-être pas si haïssable que ça. Et c'est là où, effectivement, tout mon racisme peut se dissoudre très facilement face à la beauté d'une petite fille qui joue avec mes enfants, face à la gentillesse d'un voisin qui, quand tout d'un coup je suis malade, ben, m'apporte une part de gâteau qui n'est pas de ma culture et qu'en prime je risque de trouver bon si j'accepte de le manger. Enfin voilà, tout d'un coup la connaissance de l'autre va faire que la logique raciste ne tient plus. Et pourtant Dieu sait si elle peut être violente, la logique raciste. Donc du coup, la question, d'où s'origine-t-elle ? C'est vrai, vraie question ça. Ouais.
Moi je me demandais justement dans la continuité de ce que vous disiez, est-ce que c'est pas la peur de la perte d'acquis qui génère cette haine dont vous parlez ? Parce qu'à un moment c'est une question de pouvoir en fin de compte. Et je reviens à ce que disait monsieur, c'est en fait un pouvoir qu'un certain nombre de personnes, de groupes de personnes souhaitent conserver. Et quand on ressent de la haine vis-à-vis de l'autre, est-ce que c'est pas parce qu'on a peur de. Qu'on connaît pas cette personne et on a peur qu'elle nous prenne. C'est vraiment ce que vous disiez à l'envers. Mm-hmm. En fin de compte. Donc un sentiment de peur, on se défend finalement de. de supposer action, de supposer perte de ce que l'autre peut nous peut générer vis-à-vis de nous. Et par rapport à ce que disait madame, pour avoir un petit peu voyagé, et lorsqu'on ne parle pas la langue, et lorsqu'on échange avec... mais vraiment, on n'a aucun repère, en fait, de linguistique, ça arrive. On s'aperçoit quelquefois assez vite que au-delà de... Alors, du sourire, derrière, c'est les sentiments, le ressenti va générer un sourire ou une tristesse ou tous ces sentiments-là. Et que finalement, ces ressentis-là, quelle que soit la culture, quel que soit le pays où on est, la culture, on est très proche. Et on s'aperçoit dans ces cas-là, en fait, on communique sur l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas communiquer sur des choses... souvent très complexe, hein, parce qu'on n'en a pas la capacité, mais du coup, on communique sur des choses très humaines. Et on s'aperçoit qu'on est très proche, finalement, de gens desquels on est très éloigné du point de vue culturel.
Et en même temps, dans cette logique culturelle, c'est simplement parce qu'on ne parle pas la langue, en fait. Hein, c'est parce qu'on a... Paradoxalement, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer qu'il y a du coup un lien qui se met en place et qui va relever effectivement du sentiment.
Oui, je voulais... Tout ce qui est dit là est très intéressant, effectivement. Moi, je ne vois pas du tout le racisme de cette façon. Je pense, pour moi, que nous vivons actuellement des guerres de religion, et pour moi le racisme c'est pas une couleur de peau, c'est pas une autre langue, c'est une guerre de religion, et c'est ce qu'on vit au quotidien et qui rend cette incompréhension et ce rejet qu'on ressent partout par la peur, comme on disait tout à l'heure, effectivement. Mais c'est je ne m'imagine pas autrement, je veux dire, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue, non. Mais les religions, on parle toujours des mêmes religions, mais il y a plein de religions dans le monde qui interpellent, qui rendent... Il y a des sectes, il y a des gens qui s'entretuent, qui sont même de la même couleur de peau, qui parlent la même langue, qui s'entretuent pour des religions. C'est du racisme. Pour moi, c'est du racisme. Après... mon voisin, il peut être... je veux dire, moi, même vis-à-vis de moi, parce qu'on dit toujours, nous, on est racistes, mais les autres aussi sont racistes. Mais pour moi, c'est vraiment... Ça s'apparente à la religion. Uniquement.
À l'heure d'aujourd'hui.
À l'heure d'aujourd'hui.
Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que le racisme, ça vient quand même du terme de race qui a été posé dans l'histoire, dans un rapport au corps. Il y avait différentes races, ça se voyait dans le corps, on pouvait les décrire, notamment par rapport à la couleur de peau, mais aussi par rapport à la forme du crâne, par rapport à la structure du nez, par rapport à la morphologie d'un corps. Enfin, c'était très biologique. Donc, si aujourd'hui on dit, mais attention, le racisme, ce n'est plus cela, c'est-à-dire que ce n'est plus un rapport simplement au corps, c'est un rapport à des familles spirituelles, ce qu'on pourrait dire. À partir de là, il nous faut bien admettre que le racisme est historique. Il se pose dans la logique d'un rejet de l'autre, d'une exclusion de l'autre, mais cet autre, il évolue au cours du temps. L'autre est en fait ce que j'en fais. Donc ça peut être celui qui a une couleur de peau différente de la mienne à une époque marquée de l'histoire de l'humanité. Je pense simplement à la période de l'esclavage. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on dit, attention, on garde le concept. On n'utilise plus le terme de race. Pourquoi ? Parce que peut-être, justement, le problème du racisme n'est plus en réalité tellement biologique à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne s'inscrit plus dans les couleurs de peau, dans la forme de corps, etc. Mais ça s'inscrit dans des appartenances, voilà, religieuses, spirituelles, culturelles. Donc le racisme serait polyforme, polymorphe, merci, il y a quelque chose qui me gênait, il devient effectivement polymorphe, d'où le fait que la différence, là aussi, elle varierait au cours du temps. là où je vais poser une différence avec l'autre, il va falloir la définir, cette différence. Qu'est-ce qui, en fait, me différencie de l'autre ? Est-ce que c'est ma couleur de peau ? Est-ce que c'est la langue que je parle ? Est-ce que c'est l'appartenance à une zone culturelle donnée ? Est-ce que c'est l'inscription dans une communauté religieuse ou non ? Qui renverrait quand même à une des questions qui a été posée ce soir. Peut-on vivre sans religion ? Parce que du coup, le laïc là-dedans, il se situe où ? L'athée, est-ce qu'il fait partie d'une communauté ou non ? L'athéisme est-il une religion comme une autre ? Enfin, voilà. Voilà, ça génère du coup un très grand nombre de questions. Ouais.
Moi, je voulais prendre le sujet par le biais des discriminations qui sont étudiées par les sociologues et par la méthode du testing. Ils arrivent à bien préciser, et malheureusement, le racisme dû à la couleur de peau n'a pas disparu. On voit qu'il y a toujours des discriminations liées au genre. Ça n'a pas disparu non plus, malgré tout. On voit qu'il y a des discriminations envers les Arabes et envers les Noirs, qui ne se confondent pas. Et qu'il y a des discriminations liées à l'appartenance à une religion, qui là aussi ne se confondent pas avec l'ethnie. C'est vraiment des choses différentes. Donc, il y a des discriminations liées à la religion, mais il y a toujours, malheureusement, à notre époque, encore, des discriminations liées à l'origine ethnique. Mmh. On ne peut pas dire que le racisme lié à la couleur de peau a disparu.
Et d'où la logique du polymorphisme que l'on peut accorder à ce terme de racisme.
Oui, moi, il y a quelque chose qui est comment ce rapport à l'autre qui est en fin de compte, je pense, un rapport en fait au moi. Le problème, c'est pas l'autre, le problème, c'est moi. C'est moi, chacun. Et pourquoi on a eu tant besoin de créer la notion de bouc émissaire ? Rejeter tous les problèmes qu'on peut affronter dans nos sociétés, dans nos comportements, dans notre pensée, dans notre individualité. On va rejeter sur l'autre tous nos défauts, qu'on ne veut pas voir, parce que c'est de sa faute. Et ça me fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le poisson combattant.
Non.
Le poisson combattant, c'est un petit poisson qui est magnifique. Mais il a un petit problème. C'est qu'il ne supporte pas, notamment les mâles, ne supporte pas être avec d'autres mâles. Il s'entretue. Parce qu'il a son territoire. L'autre est un ennemi qui va potentiellement prendre son domaine et ses femelles, alors qu'ils sont de la même espèce. Et en fait, on fait pareil. Il faut trouver le justificatif, je trouve, de qui nous évite, en fin de compte, d'avoir ce propre effet miroir sur nous-mêmes. Pourquoi nous sommes racistes ? En quoi ça nous évite ? C'est ça, je trouve, la solution, elle est plus là. Tout ce que l'être humain va avoir créé, en religion, en pensée, en politique, va être le problème pour un autre. Mmh. On le voit, pour vous dire, ce qui est un truc assez fantastique, il y a des antisémites japonais. C'est fantastique. Mmh. Et quand vous leur posez la question, ils ne savent pas pourquoi. Mmh. Mais le juif est l'ennemi, pour une toute petite minorité. Et en fin de compte, c'est malheureusement ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu trouver cette justificative. Il ne faut pas oublier, quand Hitler est arrivé au pouvoir, le premier ennemi qu'il a ciblé, c'est entre guillemets les bolcheviques, c'est les rouges. Quand il a éliminé les rouges, alors il a éliminé les journalistes, les penseurs, tous les écrivains qui pouvaient être contre, mais il a ciblé à chaque fois un nouvel ennemi. Et il a réussi, par la force de son discours et par son charisme, à prendre les gens, à les saisir, à les, en fin de compte, à les dominer, mais à les subjuguer, en fait, à leur annihiler toute possibilité de réfléchir par eux-mêmes, parce que, disons, il n'est pas bête, celui-là. Et en fin de compte, après ça, après avoir éliminé tous ses ennemis, il faut en trouver un autre. Le juif. Et le juif, c'est facile, en fin de compte. Et c'est ça qui est assez fantastique, de toujours voir qu'on a ce besoin de trouver cet ennemi, alors qu'on a profondément, comme Madame le disait justement par rapport à nos émotions, on a des choses qui nous sont faites. C'est pourquoi on arrive-t-on à trouver des justifications d'une absurdité totale. Le racisme est une absurdité qui n'a aucune, qui a aucun pilier, rien. Si ce n'est même au-delà de la peur de l'autre, c'est juste qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, tout simplement à vivre ensemble, alors qu'il n'y a rien qui nous en empêche, si ce n'est cette notion de bouc émissaire et qu'à chaque fois, on n'est pas des êtres parfaits. Mais il faut qu'on soit un peu plus parfait que l'autre. Le problème, c'est que si l'autre montre un peu des signes de perfection qui nous ressemblent, ben comme un petit poisson, il faut qu'on s'entretue, parce qu'il faut qu'il y ait un dominant.
Donc on reste dans la logique des rapports de force, mais je garde votre question. Hein. Que nous apporte le racisme ?
Oui. Marie-France, la madame.
Je crois que Patrick avait du monde de l'autre côté.
Ah bon. Alors.
Oui, moi, il me semble que le racisme, ce n'est pas seulement une question individuelle, il y a vraiment un problème de société. Et je pense, alors on parle beaucoup du racisme par rapport à la religion, on est un petit peu ancré un peu sur la France et sur notre approche un petit peu occidentale. Et je pense beaucoup, par exemple, à ce qui se passe aux États-Unis avec la communauté noire, où là, on vit un racisme qu'on ne peut pas imaginer. Moi, ayant de la famille là-bas, tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait moins d'importance, on était moins attaché à la forme, à la couleur, etc. Et là-bas, un noir, s'il sort, s'il n'a pas ses papiers, s'il se fait arrêter, eh ben, il ne sait pas ce qui va devenir. Moi, j'ai l'exemple d'un beau-frère qui ne sort jamais sans ses papiers parce qu'il dit, moi, parce qu'il est noir, mon frère est noir. Et c'est vraiment un phénomène de société et qui divise la société de façon très, très importante, qui est ancrée profondément. Et là, je dirais, sans que ça soit raisonnable. Alors, c'est vrai qu'il y a toute l'histoire de l'esclavage derrière. Et il y a cet esclavage qui pèse sur la conscience des communautés noires, de façon au-delà de ce qu'on peut imaginer, je crois. Il faut vraiment parler avec eux pour se rendre compte de tout ça. Mmh. Voilà, donc.
Ouais. Difficile de faire société. Monsieur ? Allez-y. Oui, allez-y.
Allô. Oui, je voudrais exprimer un. Quand on entend parler du racisme, de la discrimination, de la haine et tout ça, je pense, moi, qu'il y a derrière tout ça une énorme manipulation, qu'il soit de nos dirigeants. La devise, c'est diviser pour régner. Ça commence comme ça. Alors, si vous pouvez haïr les autres, pendant ce temps-là, moi, je fais ce que je veux de vous. Il ne faut jamais oublier ça. Quand vous parliez, madame, des Noirs aux États-Unis, la National Rifle Association, elle vend des armes tous les jours. Parce que plus les gens se haïssent, plus ils se tapent dessus. Ça fait du business pour un certain nombre de gens. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont un rôle absolument abominable et effectif pour développer le racisme, parce que ça sert de faire de la haine, ça vend, ça fait des scoops. Je pense qu'il y a un énorme business là derrière, qui est une manipulation assez monstrueuse, qui contribue à entretenir un phénomène raciste. Surtout, il ne faut pas qu'il s'arrête, parce que si on se mettait à ne plus être raciste, il va se passer, il n'y aura plus de guerre, plus d'armes, plus de révolution. Nos dirigeants auront du mal à diriger, parce qu'on se mettra à ne pas croire tout ce qu'ils disent. Je pense qu'il y a un phénomène de manipulation qui est assez, je trouve, effrayant dans notre société. Et si on n'est pas prudent, on peut s'en aller dans des directions qui sont au-delà de ce qu'un être humain voudrait faire, je pense.
Oui. Bonsoir. Moi aussi, je voulais aborder la question du bouc émissaire. En effet, ça m'évoquait ça aussi. Et d'un point de vue social, c'est vrai que d'avoir un ennemi commun, ça permet aussi de souder un groupe et de souder un groupe, mais par défaut, justement, qu'est-ce qu'on a en commun ? Ben, on déteste telle personne et telle autre, et c'est vrai que ça a pu être pas mal instrumentalisé. Et pour citer René Girard, du coup, la violence est le sacré, avec justement cette idée que il y a de la violence qui peut être générée dans un groupe, dans une communauté, parce que il y a des soucis, il y a peut-être des problèmes de ressources, des choses comme ça. Et le danger, c'est que si jamais il y a un groupe de personnes qui s'unit et qui veut prendre le pouvoir sur un autre, le tuer ou quoi, il y a un côté loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent, et du coup c'est assez dangereux parce qu'il y a une montée de violence. Du coup, le plus efficace, ce serait de désigner un bouc émissaire où, à partir du moment où on le supprimerait, ça permettrait d'éviter, enfin de casser cette chaîne de violence, et juste, on est tous soudés contre un ennemi commun, et c'est vachement pratique, et ça n'a pas besoin d'être légitime, à partir du moment où tout le monde y croit, et que tout le monde est d'accord pour dire que c'est lui le coupable. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette idée-là dans le racisme. Enfin, quand on le voit aujourd'hui, il y a quand même une grosse instrumentalisation dans les médias. En plus, par exemple, à chaque fois, il y a le sujet de « Ah, le voile, est-ce que c'est bien ou pas bien ?» pour éviter de parler d'autres sujets. Donc voilà, ça fait aussi un bon écran de fumée. Donc on se met un peu dans cette logique.
Mais c'est vrai que la référence à René Girard est absolument fondamentale. Hein. Comprendre cette logique du bouc émissaire, c'est rien d'autre que comprendre ce qui permet à un groupe de se constituer comme groupe. Alors en même temps, c'est assez angoissant, parce que ça veut dire qu'il n'y a d'identité collective qu'à partir du moment où il y a dans le groupe celui qu'on va, il faut quand même dire le terme, sacrifier. Voilà. Et donc on va jusqu'au bout, c'est-à-dire le bouc émissaire ne vaut que si on va jusqu'à la mise à mort. Et pourquoi il faut aller jusqu'à la mise à mort? Parce que dans ces liens inter-individuels extrêmement violents, le poisson combattant, là, il y a énormément d'agressivité. Et donc cette agressivité, effectivement, lorsqu'on a un bouc émissaire, on est capable de la détourner sur le bouc émissaire. Mais ce n'est pas suffisant encore. Il faut qu'on le mette à mort, il faut qu'on le lapide, il faut qu'on le crucifie, il faut qu'on l'extermine, parce que c'est le seul moyen, en fait, pour nous, et c'est pour ça que c'est une vraie question, c'est celle qui concerne le moi, pour nous de nous décharger de cette énergie agressive. Tout d'un coup, on est sidéré par ce qu'on a été capable de faire. Ce que l'humain n'est pas capable de faire, ben on l'a fait. Donc on est totalement sidéré et on est vidé énergétiquement de cette agressivité, de cette violence. Et donc on peut recommencer à faire une vie en commun. On peut recommencer à vivre tous ensemble jusqu'à ce que l'agressivité revienne malgré tout, se restructure, etc. Et donc on va avoir besoin d'un nouveau bouc émissaire. Et donc on n'en arrête pas de trouver des gens qui vont être l'objet du racisme entre guillemets, mais en fait de ce besoin de défoulement de notre agressivité fondamentale, de notre haine peut-être fondamentale. Ça ne marche pas.
Vraiment une façon de se défouler d'un sentiment d'agressivité, ou c'est juste un outil? Si vous êtes un Espagnol du 16e siècle, c'est très pratique de trouver que les Amérindiens viennent d'une race inférieure pour pouvoir quitter leur richesse. Si vous êtes, un Japonais en 1941, c'est très pratique de dire que les Coréens ou les Chinois sont inférieurs à vous pour pouvoir piller leur pays.
Si vous êtes un colon, il y a une utilité économique.
En tout ça, économique et politique, qui me semble quand même presque plus importante que la notion individuelle. Inversement, on peut se retrouver dans des situations très bizarres, c'est que par exemple, vous prenez les Amérindiens, ils ont subi un racisme phénoménal au moment de la colonisation en Amérique du Nord. Inversement, aujourd'hui, quand ils arrivent à récupérer de la richesse sur leur territoire, ils donnent des critères extrêmement, on pourrait dire, discriminants sur l'attribution des richesses pour pouvoir protéger leur culture et pouvoir, entre guillemets, la faire renaître. Donc je pense qu'il y a aussi parfois soit des mécanismes de captation économique, soit des mécanismes de protection culturelle. Mmh. Et qui sont presque, je pense, plus forts que des réactions individuelles. Mmh.
Oui.
là.
Je voulais rebondir sur ce que je t'entendais dire sur l'aspect énergétique de l'être. J'ai une autre vision. L'être n'est pas autonome énergétiquement s'il n'apprend pas à l'être. Donc c'est par l'agressivité qu'il se recharge énergétiquement. Et pour moi, c'est pas le fait d'agresser l'autre qui défoule, c'est qu'il a besoin de cette posture, cette tactique relationnelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour se recharger. La domination est un moyen de recharger nos énergies, mais sans conscience. D'où l'importance de l'éveil des consciences.
Oui, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le racisme est inéluctable.
Sans éveil des consciences, pour moi, c'est inéluctable.
C'est inéluctable.
Sans éveil des consciences, et je voulais aussi revenir sur ce que Monsieur en rouge disait, parce que je réfléchis beaucoup sur le un. Pour moi, nous ne faisons qu'un. Et la rencontre avec l'autre n'est qu'un cadeau qui nous est offert pour aller voir au plus profond de nous-mêmes. Et la colère que je peux avoir par rapport à la différence n'est que la colère que j'ai par rapport à une part de moi-même que je ne veux pas voir. Et que je projette donc chez l'autre.
On pourrait réinscrire la peur là-dedans.
Tout à fait. Alors la peur, pour moi, elle intervient. Il y a la peur, certes, mais qui intervient beaucoup au niveau du groupe, par la manipulation, ce que même Monsieur en bleu, la manipulation agit. Enfin, c'est un outil extraordinaire. La peur est un outil extraordinaire. Mais je parle au niveau du de la démarche individuelle, et je vais m'inscrire dans une démarche de groupe parce que ça va m'apporter, ça va aussi me nourrir énergétiquement.
J'ai le micro, si
oui.
Je me permets.
Oui.
Alors moi, je ressors mon cours de philo de Monsieur Guéret sur la tolérance.
Ici voilà. Présent.
Exactement. En espérant qu'il me donne 2-3 points de plus à la prochaine dissertation. Donc c'est la parabole des porcs-épics de Arthur Schopenhauer, qui dit bien que de toute manière, on est tous différents. De plusieurs manières, c'est le principe de l'identité individuelle. Donc, on est condamné à se piquer entre nous, mais on ne peut pas vivre sans les autres qui nous entourent. Donc, il va bien falloir trouver à un moment donné, et c'est ça, c'est la définition de la tolérance, c'est trouver la bonne distance entre moi et quelqu'un d'autre, qui n'a pas les mêmes idéaux que moi, qui n'a pas les mêmes valeurs, tout ça. Pour réussir à vivre en communauté. Donc je pense qu'en fait, c'est la solution la plus simple et la plus évidente au racisme, c'est la tolérance. Globalement, il faut apprendre à vivre avec l'autre, de toute manière, parce qu'on ne pourra jamais être d'accord avec tout le monde, comme on ne pourra jamais aimer tout le monde, comme on ne pourra jamais aimer tout le monde. Donc, cette parabole, pour moi, elle décrit assez bien, Donc sortir du racisme, c'est passer par la tolérance.
Ouais.
Voilà. Et trouver donc cette fameuse juste distance.
Et du coup, c'est pour
le principe de la communauté. C'est le principe de la communauté. Ok.
Eh bien, bonsoir avant tout, même si c'est un peu tard pour dire ça. Donc oui, enfin, c'est surtout, j'aurais aimé surtout essentiellement savoir. Enfin, donc,
Oui.
On parle vraiment donc, du mot général raciste, ou vraiment plus de la xénophobie qui est vraiment la peur de l'autre. Donc après, pour...
La peur de l'étranger, quoi.
C'est vrai. Peur de l'étranger ou ce qui vient de l'étranger. Mais aussi pour revenir à ce que tout le monde a pu dire ce soir, le racisme, globalement, n'a pas de frontières et vient surtout de la bêtise humaine, en général. Comme disait donc ma collègue lycéenne, nous sommes tous différents, en somme, mais nous recherchons pourtant, désespérément, une forme de perfection.
Est-ce que c'est la perfection ou est-ce que c'est nous recherchons tous à peu près la même chose, à savoir vivre bien?
Peut-être pas la même chose vu qu'il y a des différences d'opinion.
Ouais.
Mais.
Perfection.
D'accord, perfection. Alors, je voulais revenir sur la haine fondamentale dont vous avez parlé. Mmh. Mmh. Et le rechargement par la destructivité, par la domination. Et merci pour ce que je viens d'entendre. Ce qui fait le racisme, ce qui fait la haine de l'autre, c'est pas l'ignorance. Je convoquerai Alice Miller et Eric Fromm. C'est la maltraitance de l'enfant qui fait que nous allons développer un besoin de destructivité de l'autre. Les plus grands haineux de notre histoire, sont aussi les plus grands maltraités enfants. Et donc je ferai une séparation entre quelque chose de politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va sur lequel il va se poser des idéologies, et puis quelque chose d'individuel. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de détruire l'autre? Parce que moi, dans mon individualité, je n'ai pas été reconnue dans l'altérité que je représentais pour les figures autour de moi.
Alors ça serait intéressant, parce que si je n'ai pas été reconnue dans mon altérité, est-ce qu'on pourrait dire parce que je n'ai pas été reconnue dans ma différence?
Oui.
Voilà.
Donc, dans mon incapacité à être conforme aux attentes qu'on avait, qu'on projetait sur moi. Mm-hmm. Et l'autre, il est ça. Il est non conforme à ma loi, ma règle, ma vision des choses.
Mm-hmm. Et la maltraitance, alors, elle n'est pas nécessairement dans le fait de battre un enfant. La maltraitance, dans le fait que je n'ai pas répondu au désir de mes parents, par exemple. Et on me l'a fait ressentir.
Alors, par exemple, Adolf Hitler, il a été maltraité physiquement, émotionnellement, comme peu d'humains, en fait. Mmh. Ben, lui, il est resté vivant de cette maltraitance-là. Mmh. Les grandes figures abominables de notre histoire ont été maltraitées physiquement aussi, mais quand je lève la main sur l'autre, je lui dis « n'existe pas ». Donc c'est aussi, à travers le geste physique, il y a aussi quelque chose d'existentiel. Et donc pour moi, l'éveil des consciences ne suffira pas si on ne change pas notre rapport à la violence physique, émotionnelle, verbale, vis-à-vis des autres, et notamment de l'être en construction qui est l'enfant.
Mmh. Besoin d'amour, posons le terme, il y a besoin d'amour. Oui.
Je crois que c'est moi. Excusez-moi, je vais reprendre encore une fois le micro. Mais là, c'était important parce que là, je veux parler de moi parce que j'ai vécu. C'est du vécu, hein, donc là, c'est pas une théorie comme ça. Je ne suis sûrement pas. Donc ma compagne, ma chérie, qui est blanche, hein, qui est blonde, voilà. Quand on s'est mis ensemble, elle m'avait bien fait comprendre que ses parents n'aimaient pas trop les étrangers, tout ça. Et moi, ça m'a fait sourire parce que c'est du vécu, hein. je connais l'histoire. Donc, je me dis, écoute, on va y aller doucement, je vais voir tes parents, on va discuter, tu vas voir, tout va s'améliorer. Je ne croyais pas. Mais il m'a dit, non, tu vas voir mes parents, tu vas voir. Première invitation, je n'ai pas été invité tout de suite, et puis après, j'ai été invité, et là, on s'est mis à discuter. Et quelque part, les parents de ma chérie ont compris que, à part la couleur de ma peau, j'avais rien de différent par rapport à eux. Que j'étais bien élevé, que je parlais bien, que j'étais cultivé, qu'apparemment j'aimais leur enfant, que leur enfant m'aimait. Et en une soirée, tout ça s'est dissipé. Donc, il y avait des préjugés comme quoi, quand on a une telle couleur de peau, donc on a une telle culture, donc on voit les choses différemment, et que voilà, ça va pas être possible. Et finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, on s'entend très très bien et que tout se passe très très bien. Mmh. Voilà. Et j'ai été même adopté. Enfin, je suis comme leur fils, quoi, quelque part. Donc, c'est pour faire comprendre que le racisme, à part le racisme qui s'apparente à la haine, c'est la haine qu'on produit sur l'autre parce qu'il est différent. Bon, ça, c'est on a des problèmes perso qu'on a envie de régler et qu'on en renvoie sur l'autre juste pour défouler sa haine par rapport à l'autre. Mais souvent, il y a du racisme dont on parle qui ne sont juste que là, comment je vais les préjuger, et la peur de comment que l'autre ne soit pas comme nous. Voilà, c'est tout. Voilà. Et quand on se rend compte que finalement, l'autre,
n'est pas si différent que nous. Et il y a beaucoup, j'espère que je ne me trompe pas, il y a beaucoup de ces formes de racisme qui disparaissent. Hein, donc, voilà.
Oui, là, ce que j'observe, c'est qu'on fait quand même le grand écart entre l'individuel et le sociétal et la sociologie. Il me semble, hein, mais peut-être que je me trompe, que tous les racistes, enfin tous les gens qui sont racistes, disent « je ne suis pas raciste, d'ailleurs j'ai une copine black, j'ai un pote arabe » et en aucun cas, alors sûrement qu'ils les ont, hein, je ne remets pas ça en cause, mais en aucun cas ça n'arrête leur racisme global. Donc c'est compliqué là parce que je pense que le racisme n'est pas individuel. Il est forcément sociétal. Il ne peut pas ne pas être sociétal. Et si on va au-delà, et je suis ravie pour vous que vos beaux-parents vous aiment beaucoup, mais sans parler même de couleur de peau ou de personnes étrangères, il y a aussi de la ségrégation entre niveaux sociaux. Et vous auriez pu, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, d'un milieu social qui n'aurait pas été celui de votre époux, enfin, de votre compagne, et donc rejeté. Donc le rejet individuel me semble différent du racisme. Parce que on peut rejeter quelqu'un qu'on rencontre, on peut rejeter un membre de sa famille parce qu'il n'est pas comme on le souhaiterait ou qu'il ne nous convient pas.
Voilà, parce qu'on l'apprécie pas.
Voilà, on l'apprécie pas. Mais le racisme s'adresse bien à une communauté. C'est la communauté noire, c'est la communauté X ou Y selon d'où l'on se place. Moi, je suis questionnée par ce mélange de l'individuel et du sociétal. Et du sociétal.
Il est construit, le racisme.
C'est le mot que j'allais employer. Je pense que le racisme, on le construit, mais ça ne me semble pas antinomique non plus avec, avec ce problème individuel, parce que souvent, en fait, le racisme, ça permet aussi une victimisation.
Oui, c'est vrai.
Donc, on rejoint la maltraitance ou toutes sortes de discriminations ou de violences subies ou d'injustices subies. Et voilà, souvent aussi, ça permet la victimisation. C'est aussi un alibi pour être raciste.
Alors, qui est victime ?
Un groupe qui va être raciste envers un autre groupe,
oui.
Ça va lui permettre de se poser en victime.
D'accord, donc pas du tout dans une posture de dominant, là, pour le coup.
Bah, justement, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est qu'on a les deux volets.
C'est qu'on peut avoir
dans l'histoire, on a le volet, évidemment, de la domination, hein, c'est ce qui a souvent engendré le racisme, hein, parce que c'était la peur de l'inconnu, et ça permettait effectivement de s'enrichir, d'avoir des essais économiques, voilà. Et en même temps, il y a aussi des groupes pour lesquels ça permet une victimisation, donc on ne va pas remettre le groupe en question.
Oui.
C'est de la faute de l'autre.
Voilà. D'accord.
Donc pour moi, ce n'est pas antinomique du tout. Au contraire, ça se rejoint.
C'est une autre stratégie, en fait. On pourrait parler de stratégie.
Oui.
Je vais provoquer un petit peu, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu racistes ? Si on parle de discrimination, si je reviens au temps des sorcières, elles étaient tuées parce qu'elles avaient des dons. Aujourd'hui, ces dons, ils sont plutôt valorisés par la société. Les roux étaient mis de côté. Aujourd'hui, les jeunes filles se créent des taches de rousseur pour ressembler aux rousses.
Donc on parle d'économie, on parle de culture, mais est-ce que ce n'est pas aussi une notion de mode, de tendance, et qui est à la fois individuelle, mais qui est très sociétale. Mm-hmm. Voilà. Donc en termes de manipulation, on a tous un besoin d'appartenance à un groupe, et dans ce besoin d'appartenance à un groupe, on laisse forcément d'autres personnes de côté, et on a ce besoin de se réaliser, et nos croyances doivent évoluer, et c'est un travail, et je rejoins à ce qui a été dit tout à l'heure, un travail sur soi-même, un travail pour faire évoluer ses propres peurs, son propre rapport à l'autre, parce que et ça demande un effort parce qu'on est un peu paresseux et que c'est plus simple de rester dans son canapé, près de son portable, que d'aller à la rencontre de l'autre. Ça demande un effort d'écoute, un effort d'être silencieux pour entendre ce que l'autre a à dire, pour être d'accord ou pas d'accord, et de se recentrer et de remettre en perspective ses propres croyances.
Oui, plusieurs remarques. Je voudrais d'abord, me semble-t-il, dissocier le racisme de la haine. Par exemple, je veux dire, les colons n'étaient pas porteurs de haine envers leurs esclaves. Il faut quand même penser à ces foules qui allaient admirer les tribus dans les eaux humaines au début du XXe siècle. Il n'y avait pas de haine. Et comme comportement raciste, je pense qu'il n'y a pas plus caricatural. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas encore parlé d'éducation. Et je voudrais situer le racisme, c'est une forme d'exclusion. Et personnellement, il me semble qu'aujourd'hui, on peut englober toutes les formes en utilisant le terme d'exclusion. Et je voulais souligner le fait qu'on n'ait pas encore parlé d'éducation, alors que, me semble-t-il, c'est le moyen nécessaire pour surmonter la perception première de l'autre, qui est quand même l'autre est perçu comme concurrent. Et je pense que c'est par l'éducation qu'on peut permettre de retenir, enfin, de gérer cette première perception et de découvrir que l'autre peut être aussi un allié coopérant. Ensuite, effectivement, cette concurrence, quand elle est exacerbée, elle pousse à la haine, elle pousse à l'agressivité, elle pousse à la violence. Mais cette concurrence est exacerbée par des manipulations, que ce soit par la peur, que ce soit par le bouc émissaire, que ce soit par la privation, l'autre nous prive, etc. Il y a des formes multiples de manipulation qui fait que cette perception de concurrence exacerbée nous mène à cette violence. Je m'en prie.
Je voulais juste dire que je pensais un petit peu à la même chose. Je voulais faire d'éducation aussi. Voilà. Puis alors, comme on est au café philo, j'allais dire une phrase d'Aristote quand même.
Bah oui.
Alors, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans la cautionner pour autant.
Mm-hmm. Je pense que c'est toute la base du dialogue. Hein.
Voilà.
Oui. Mm-hmm. Mm-hmm.
Moi, je voulais revenir sur la notion d'effort. Et du coup, je vais aussi parler d'un exemple personnel. Je fais un stage en hôpital psychiatrique et je pense que là, on a vraiment affaire au grand autre. Et quelque chose de vraiment extrême. Et j'avoue qu'au début, et puis même encore aujourd'hui, je ne suis pas toujours à l'aise. Il y a des personnes qui ont un comportement qui m'est tellement étranger que je dois faire un grand effort pour justement savoir. Enfin, ça peut générer de la peur et tout. Et c'est parce que j'ai ma casquette de soignant, on va dire, que j'accepte justement de faire cet effort-là. Mais c'est pas du tout évident, en fait. Parce qu'on est face à un fonctionnement qui est tellement singulier qu'on ne sait pas comment la personne va réagir. Et je pense qu'on peut extrapoler par rapport au racisme sur justement toutes les... Enfin, d'autres personnes qui ont une culture différente.
Mais je pense que voilà, on est sur un exemple extrême. Mais voilà, je dois faire cet effort-là, et du fait de les connaître, d'apprendre la psychopathologie, tout ça, je commence à arriver à être plus à l'aise. Et justement, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'en fonction des périodes, si on a des périodes où un peu plus instables d'un point de vue sociopolitique, si il y a des angoisses un peu plus générales, on a tendance à avoir un repli sur soi. Et du coup, on va moins faire cet effort vers l'autre, et plus on va se replier, plus l'autre va nous paraître étranger. Parce qu'on va revenir avec les personnes qui fonctionnent comme nous, qui viennent de notre milieu social, qui ont les mêmes aspirations, et du coup, plus voilà, l'autre va être va générer de la peur parce qu'on connaîtra de moins en moins, qu'on sera de moins en moins dans le dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui va être réseaux sociaux, où on va être plus derrière un écran que devant des vraies personnes et leur parler en vrai, et du coup, je pense que voilà, le racisme peut aussi être fluctuant en fonction des périodes et des époques. Et je pense que dans des périodes où tout va bien, où on a suffisamment de ressources pour tout le monde, où il n'y a pas d'égalité économique aussi, eh bien, je pense qu'il doit y avoir moins de racisme. C'est beaucoup plus facile de s'ouvrir à l'autre, puisque finalement, bon, voilà, c'est pas beaucoup plus malheureux que nous. Enfin.
Ouais. Là aussi, hein, les poussées de racisme sont fluctuantes. Et Hitler, il n'est pas arrivé n'importe quand. Hein. Et il n'est pas arrivé n'importe où. Tout à fait. Hein.
Moi, je voudrais revenir sur l'éducation pour dire qu'on aura fait un grand pas, effectivement, quand on n'utilisera plus le mot racisme, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Et ce qui nous définit, c'est surtout notre milieu social, effectivement, notre environnement, notre culture. Mais à partir du moment où on arrivera à enseigner ceci, je veux dire, aux enfants, et qu'on n'apprendra pas comme à mon époque qu'il y a tant de races, etc., les noirs, les blancs, les jaunes, etc., les verts, etc. Eh bien, on aura fait déjà un bon pas au départ. Et puis, il y a aussi le respect de la différence. Et on en a parlé, enfin, tout le monde en a parlé, ça a été très riche. Mais je pense que c'est vraiment les enfants qui nous apporteront le meilleur dans leur comportement. Pourvu qu'on les aide aussi.
Pourvu qu'on les éduque bien. Ah, oui.
Oui. Je voulais terminer mon soir sur une note positive. Hein. Aura-t-on la possibilité d'avoir un monde différent et plus tolérant, ce qui nous manque bien, malheureusement, cette qualité de l'être humain qui disparaît. Mais il faut se mettre aussi à la place des personnes qui sont tolérantes et qui, bon, un peu singulières, sont mal perçues parfois. Hein, par ces groupes là, qui peuvent se dire bah, c'est un zombie, d'où vient-il, d'où vient-elle, parce qu'on ne ressemble pas vraiment à ces groupes qui sont un petit peu trop extrêmes. Bon, maintenant, comme vous le disiez justement, Hitler n'est pas arrivé n'importe où. Maintenant, dans ce pays, ce peuple belliqueux, très guerrier, voilà, à la base, déjà, mais qu'on ne peut pas totalement incriminer quand même, le connaissant parfaitement. Donc, faut savoir prendre ses distances quand même quant à ce jugement de peuple. Mais il faut savoir que notre pays est quand même un pays tolérant et on ne comprend pas bien pourquoi, parfois, on a des réactions très violentes. Quoi. Ça nous stupéfait, quoi. Maintenant, il y a aussi des nouvelles générations, mais comme vous disiez, les enfants, bah, voilà, nous aideront à voir le monde différemment. Il faut l'espérer.
Alors, peut-être les enfants, peut-être aussi les jeunes, les étudiants. Et je dirais juste une chose comme ça, c'est qu'il y a un très très beau projet européen qui s'appelle Erasmus. Et l'avantage d'Erasmus, c'est que les jeunes voyagent. Voilà, ils passent les frontières et ils vont en terre étrangère. Quel bonheur! Donc apprendre les langues étrangères, mais à la limite déjà simplement aller rencontrer l'autre, aller rencontrer celui qui est étranger et qui ne l'est peut-être pas tant que ça, c'est ce qui m'intéresse dans Erasmus, parce que on reste dans l'idée de vouloir construire quand même cet espace européen avec ce projet de rendre rendre la guerre impossible en Europe. Bon, voilà. Mais en tout cas, l'idée, elle est quand même là. C'est-à-dire que ce qui a eu lieu ne puisse plus avoir lieu parce que à ce rejet de l'autre, de l'étranger, on essaye de remplacer cette haine par des liens interindividuels très forts. Voilà, j'ai été en Allemagne, je connais les Allemands et les Allemandes, c'est l'auberge espagnole, voilà, et ben qu'on le veuille ou non, ça crée des liens. Et donc, à partir du moment où on se connaît, on commence à ne plus penser comme appartenant à une identité nationale.
Et le CRIJ rassemble...
Je voudrais juste faire un commentaire sur éducation. Quand on dit éducation, c'est éducation de qui? Si on fait reposer sur nos pauvres enfants tout changement, soyons le changement que nous voulons voir. Si nous n'éduquons pas les adultes, c'est mort, puisque les enfants apprennent par imitation. Donc si on ne leur fait pas modèle, on peut bien les charger de changer la planète, de nettoyer, de tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Voilà.
Ils ne sauveront pas le monde tout seuls.
Après, dans l'idée de mélange, Kay et moi, on est en section internationale dans ce lycée. Donc, on a des amis d'Irlande, d'Allemagne, d'Angleterre, même du Liban. Et déjà, ça d'Égypte. Qui c'est d'Égypte?
Il y a même l'Égypte.
Voilà, moi je suis portugaise, donc ouais. Ça me connaît aussi. Donc je pense que honnêtement, le mélange il se fait aussi au lycée. Et c'est ça qui est magnifique, on va dire, avec la France, enfin, même s'il y a encore pas mal de choses à régler dans l'éducation, comme le fait que je n'ai pas quitté le lycée aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est ça qui est beau, c'est que même si ça ne se fait pas forcément dans le cadre familial, on a quand même le lycée où on se retrouve tous. On essaie aussi, c'est le principe de la laïcité, c'est qu'on essaie de laisser un peu nos idéaux politiques qui peuvent fâcher ou nos religions qui peuvent opposer à la maison. Et on se retrouve pour partager, on va dire, ce savoir qu'est l'éducation.
Donc, vivre en commun.
Exactement.
Il faut encore accéder au lycée. Hein. Voilà. Il y a beaucoup qui n'accèdent pas au lycée. Hein. Qui sont racistes.
Je voulais dire à ce sujet-là européen que le CRIJ à Orléans réunit régulièrement pendant ses heures de blabla OAS tous les Européens qui vivent sur Orléans. En service civique, notamment, et dans les établissements scolaires. N'hésitez pas à les rejoindre, je pense que vous le faites déjà.
On n'a pas nécessairement toujours besoin de voyager. Hein. Des fois, c'est le monde qui vient frapper à notre porte. Ouais.
Oui. Je ne vais peut-être pas faire un acte religieux, mais je vais faire un acte de croyance. Il faut quand même constater la à quel point les choses peuvent être sournoises. Regardons par exemple, on ne parle pas d'exclusion quand on parle de carte scolaire. Et pourtant, hein, on voit bien que se fait un certain tri. Bon, là, ensuite, on parle de rencontres, on parle d'aller à l'étranger. Quelle joie quand le mur de Berlin est tombé. Et actuellement, combien de kilomètres de murs sont construits et sont en construction? L'exclusion, regardez un peu ce qu'elle provoque. Et malgré ça, et c'est là que je fais mon acte de croyance, je pense qu'effectivement l'éducation, et j'insiste aussi sur l'éducation permanente, ce n'est pas qu'un problème d'enfant, l'éducation. L'éducation doit nous permettre de réaliser ce qui se passe et de se mobiliser pour souhaiter et peut-être commencer à faire quelque chose de différent.
C'est très optimiste de penser que l'éducation va tout résoudre, mais l'instruction, même si on convoque toutes nos connaissances en génétique aujourd'hui, n'empêche pas le racisme. Donc l'instruction, l'éducation, on les a, les outils aujourd'hui, et c'est pas pour ça que ce phénomène disparaît. On parle beaucoup d'aller à l'étranger ou de pouvoir communiquer à l'étranger, mais pour y être confronté assez souvent, combien de jeunes aujourd'hui ne savent même pas s'exprimer ou formuler une idée clairement ? Vous parliez du lycée, mais combien peuvent effectivement, comme disait madame, y accéder ? Et je crois que quelqu'un qui n'est même pas capable de pouvoir formuler une question comprise par autrui, formuler une demande comprise par autrui, forcément s'isole et aura des réactions peut-être violentes. Il y a, dans l'éducation, il y a aussi une question, je dirais, plus de d'acquisition de, du langage pour communiquer, peu importe, je dirais, la couleur de peau, la religion et autres, mais ne serait-ce que pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'entre vous parlent de faire peser sur les jeunes, ils résoudront les problèmes que nous, on n'a pas résolus. Mais en fait, il y en a, je pense, beaucoup qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à se présenter, n'arrivent pas à formuler une demande. Moi, tous les jours, j'ai des jeunes qui nous demandent des stages. C'est assez effarant. Ils n'arrivent pas à se présenter. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent. Et je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir aller vers l'autre, pouvoir s'ouvrir, alors qu'eux-mêmes ne peuvent même pas exprimer ce qu'ils ressentent ?
C'est peut-être pas pour rien qu'on dit que la France, aujourd'hui, il y a une fracture sociale énorme et qu'elle est divisée, même. Hein, on parle d'une double France, ouais.
Désolée, je reprends encore la parole. Juste pour rebondir sur ce que disait madame par rapport au langage, en fait, j'avais lu un article d'un monsieur qui s'appelle Bento Lila, qui est assez intéressant. Il disait le rapprochement justement entre le langage et la violence, et sur le fait qu'en fait, par exemple, schématiquement, quand c'est un groupe social assez restreint, par exemple en banlieue et tout ça, les personnes vont vivre dans une forme de tortille, utiliser le même langage, n'auront pas besoin de développer un langage très construit parce qu'il y aura des choses qui passeront de manière intuitive. Comme dans une famille, par exemple, il n'y a pas forcément besoin de faire de longs discours pour faire comprendre « passe-moi le sel », ce genre de choses. mais du coup, le problème, c'est qu'en étant justement enfermé dans son groupe social, ça devient difficile de communiquer des notions avec des groupes extérieurs puisqu'on n'aura pas de langage commun et que justement ce langage pauvre va non seulement empêcher la communication avec les groupes autres mais va aussi empêcher le fait de pouvoir penser parce que le fait de se confronter sa parole à l'autre permet aussi justement de se poser des questions, de voir justement les différences et ça c'est aussi sans doute par l'éducation et l'acquisition du langage qui permet justement de développer la pensée. Donc, je pense que ça peut faire aussi un des éléments.
Oui, peut-être pour conclure. Je pense que pour conclure, repartir de cette idée du langage est très, très pertinent. Le racisme, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement poser l'autre dans sa différence, mais l'autre, il n'est pas si tellement différent de moi. L'autre, c'est le radicalement différent de moi. Voilà. Et les anciens avaient un terme pour ça. C'est-à-dire, celui qui est étranger, avec un E majuscule, c'est le barbare. Et le barbare, c'est celui qui est capable de barbarer. Alors, du coup, d'où vient ce terme de barbare ? En fait, c'est un terme qui a été créé par les Grecs. Et le barbare, c'est celui qui ne parle pas grec. C'est tout bêtement celui qui ne parle pas grec. Dès que vous ne parlez pas grec, vous êtes un barbare. Et c'est intéressant parce que on voit que, du coup, en même temps que je qualifie l'autre comme barbare, comme l'étranger, comme l'ennemi, comme celui qui est radicalement autre que moi, ça me permet, moi, de créer une identité collective. C'est-à-dire, parce qu'il y a de l'autre, parce qu'il y a du barbare, il y a les Grecs. Et effectivement, les Grecs sont capables de barbarie, enfin, les barbares sont capables de barbarie, alors que les Grecs sont fondamentalement civilisés, eux, à la différence des barbares. Et donc, le racisme, il naît d'où ? Il naît dans le fait qu'il faut qu'il y ait une différence fondamentale pour que je puisse, moi, posséder une identité. Et c'est bien parce que sans le barbare, il n'y a pas de grec, c'est-à-dire sans l'autre, sans celui qui est radicalement autre que moi, en fait, je ne sais pas moi qui je suis. Je me pose dans mon identité, je me pose dans ma singularité parce que je suis capable de m'opposer à un autre que moi. Et dès l'origine, en fait, cette logique de l'exclusion, on voit à quel point, effectivement, elle est sociétale. C'est-à-dire, elle crée la société, mais plus que ça, elle crée la communauté politique. C'est-à-dire, pour quelle raison est-ce que nous sommes français ? Mais parce qu'il y a des Allemands. Pour quelle raison est-ce que nous sommes français ? Parce qu'il y a des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Dieu sait si on s'est fait longtemps de la guerre avec les Anglais. Hein ? Donc, c'est parce qu'il y a un autre que je peux me définir, moi, dans mon identité. Et cet autre, il est nécessaire, parce que sans lui, je n'existe pas. Ce pourquoi on a des besoins d'appartenance. Voilà. On a besoin d'appartenir à des communautés qui nous permettent de nous cerner, qui nous permettent effectivement de nous définir dans l'être que nous sommes. Et puis ensuite, de cette identité collective, on va rentrer dans une identité qui est plus singulière. Qui suis-je, du coup, moi, plus, j'ai envie de dire, de façon plus personnelle, dans le rapport que je peux avoir avec les gens qui m'entourent, c'est-à-dire en fait avec mes proches. Et on s'aperçoit à ce moment-là que le racisme, effectivement, il peut tomber assez facilement lorsque je rencontre l'autre que moi dans mon environnement, parce qu'en fait, en le rencontrant dans mon environnement et en m'apercevant qu'il n'est peut-être pas si différent que moi, qu'est-ce que je fais ? Je l'adopte. Je l'adopte. C'est-à-dire, cette personne-là, je la fais rentrer dans ma sphère d'appartenance. Et donc, de l'étranger qu'il était, il devient un être qui devient effectivement semblable à moi-même. Mais du coup, s'il est semblable à moi-même, c'est aussi que ça va être un ami pour lutter contre ceux qui sont différents de nous. Et c'est reparti. Le processus est reparti. On a simplement peut-être élargi la sphère d'appartenance. On l'a peut-être changé, on a peut-être modifié les lignes. Mais la chose, elle se construit comme ça. Et donc, le racisme, c'est vrai que c'est une construction du coup qui apparaît avoir ses racines dans l'élaboration du politique. Le racisme a une histoire qui s'inscrit aussi dans des logiques de domination, parce que l'autre, s'il peut me mettre en péril... Il n'empêche que moi aussi, je peux lutter contre lui et pourquoi pas lui prendre ce qu'il a. Parce que, hein, voilà, la logique de la possession ne déplaît jamais à personne. Alors on voit bien comment la construction de l'identité personnelle passe par la construction d'une identité collective. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la différence, il faut qu'il y ait de l'autre pour qu'il y ait du soi. La question, c'est est-ce qu'on peut se sortir de ça ? Et c'est vrai qu'on a remarqué quand même quelque chose, c'est que le terme de racisme existe toujours, alors que le terme de race, on n'a plus le droit de l'employer. Suite aux exactions de la Seconde Guerre mondiale, suite aussi à l'avancée de la biologie, qui fait qu'effectivement, il n'y a pas des races. Voilà. Il y a, si on veut dire une seule race, il y a une seule espèce humaine. Donc ça ne fait plus sens de parler de race avec un S. Pourtant, on dit toujours qu'il y a du racisme. Et ça choque personne. Ça, c'est intéressant quand même. Pourquoi on n'abolit pas le terme pour parler d'exclusion, pour parler de discrimination? Enfin, on pourrait utiliser un autre vocable. Et on ne le fait pas. Et si on ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette haine dont on parlait, une haine qui n'est pas dirigée vers un individu en particulier, mais c'est bien une haine qui est dirigée vers le grand autre, vers celui qui est radicalement différent et compose comme un groupe, qui, elle, persiste toujours. C'est pourquoi on peut se retrouver aujourd'hui avec un racisme qui va être religieux, comme il a pu être de couleur de peau avant, enfin, voilà. Donc la logique du racisme existe parce qu'il y a toujours cette logique de haine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin pour pouvoir dire qui on est, de s'opposer à ce point aux autres ou à l'autre, parce qu'encore une fois, c'est toujours un groupe. Donc c'est toujours un impersonnel. Donc c'est facile de haïr sur un mode impersonnel, conceptuel. Paradoxalement, le racisme, ça serait presque une haine conceptuelle. Voilà. Je haïs quelqu'un quand je le connais, quand je peux lui reprocher quelque chose. Dans le racisme, non. C'est quelque chose qui est abstrait. C'est une haine qui est construite. Et ce processus-là fonctionne très très bien quand on est dans des périodes de crise. Et les périodes de crise, c'est quoi? Très souvent, quand on regarde l'histoire, ce sont quand même des grandes crises identitaires. Plus une société traverse une crise identitaire, plus elle risque fort d'avoir recours au racisme, parce qu'elle cherche un bouc émissaire, effectivement. Elle cherche quelqu'un sur qui projeter ses peurs, ses angoisses, son sentiment d'insuffisance, d'incapacité et autres, pour pouvoir, elle, se retrouver et s'assurer d'elle-même, s'assurer de son propre être. Crise, quitte à le passer par une logique de victimisation, hein, parce qu'en fait, ça fonctionne exactement de la même manière. Alors, et c'est là où on voit que dans l'histoire, les logiques racistes, elles vont quand même se manifester très fortement, j'ai envie de dire, à partir du 18e, 19e siècle. Très, très fortement. Voilà. Et c'est quand même l'émergence de quoi? C'est peut-être aussi l'émergence de l'État-nation. C'est-à-dire, pour qu'il y ait du racisme, il faut qu'il y ait une limite qui pose très clairement la place ou la trace de ce qui va venir différencier l'ami de l'ennemi. C'est-à-dire qui va venir différencier ce qui relève de l'ordre du soi, de nous, de notre identité, et de l'autre. D'où, il semble, l'importance des logiques comme Erasmus, qui ne sont qu'un début, qui sont qu'un balbutiement. C'est-à-dire pour que l'autre ne soit plus perçu dans sa différence, mais bien comme semblable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être plus passer par la raison, mais par l'émotion. Plus passer par cette logique d'un langage conceptuel qui pose des distinctions, qui distingue. Mais effectivement, tout le monde ressent de la joie, de la peine, le visage, il est expressif. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a une seule humanité. Mais quand je m'aperçois qu'il y a une seule humanité, il n'y a plus de frontières, en fait. Je ne suis plus française, la personne en face, elle est plus chinoise. Voilà. Ce que j'arrive à percevoir en l'autre, c'est que l'autre est un être semblable à moi. Voilà. À partir de là, ça veut dire qu'effectivement, on n'est plus citoyen d'un État, mais on devient citoyen du monde. Et pour être citoyen du monde, peut-être qu'il faut un éveil des consciences, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que j'arrive à pouvoir me positionner dans mon propre être sans avoir besoin de m'opposer à l'autre, de me recharger énergétiquement par cette agressivité envers l'autre qui fait que ça n'est que dans la différence que je me retrouve. Non, c'est peut-être dans le fait que nous faisons tous un. Voilà. Mais du coup, la marche, est-ce que la marche est haute? Elle peut paraître haute. Hein. Elle peut paraître haute. Peut-être qu'elle ne l'est pas tant que ça. Parce que les porcs-épics, ils sont tous, ils piquent tous, hein, mais quand on trouve la bonne distance, c'est-à-dire quand on arrive à comprendre que l'autre n'est pas celui qui me met en danger, mais effectivement celui avec lequel je peux coopérer. Quand j'apprends que il ne faut pas avoir peur qu'on m'enlève ce que j'ai, parce que si l'autre me le prend, peut-être qu'il me le rendra au centuple après tout. Voilà. Non pas parce que les choses nous appartiennent, mais parce qu'en fait, on vit dans un monde commun. On vit dans une société. On vit en commun, tout simplement. Donc, ce qui est à moi est peut-être aussi à toi. C'est quoi cette histoire de propriété privée? Après tout, l'air est à personne et ça gêne personne. C'est bien du commun. Voilà. Et mon Dieu, ça se passe très bien. Alors, je voulais juste terminer, parce que j'ai ça en tête toute la soirée. Je ne sais pas si vous la connaissez, la fameuse histoire drôle de Fernand Reynaud. Moi, j'aime pas les étrangers. Parce qu'ils viennent manger, parce que les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Vous avez rien, là ? Non, moi, j'aime pas les étrangers. Hein. Ah, vraiment, les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. C'est la chute, je ne vais pas raconter les histoires, je l'ai dit tout de suite, mais c'est la chute que j'ai toujours trouvée magistrale. C'est-à-dire, bon, ben voilà, puis là, il y a un étranger, il est venu au village. Puis moi, il n'aime pas les étrangers, il aime manger le pain des Français. Bon, ben l'étranger, on a été tellement immonde avec lui qu'il est parti. Puis maintenant, on ne mange plus de pain. Ben pourquoi ? Ben c'était le boulanger. Ah, merci.
Alors, avant qu'on se retrouve autour du bar, deux petits points. Si vous voulez recevoir un mail avant chacun de nos événements, laissez-nous vos adresses mail sur le petit cahier qui est là. S'il vous plaît, notez-les en majuscule, parce que chaque fois qu'on met vos adresses, il y en a souvent que vous faites, je n'arrive pas à déchiffrer. Je sais que c'est en minuscule, mais notez-les en majuscule. Et puis, d'autre part, si vous pouvez nous donner un petit coup de main pour que demain, les lycéens retrouvent leur cafétéria en format cafétéria, c'est-à-dire avec des chaises autour des tables. Voilà. Merci d'attention. Thank you.